Le yiddish aujourd'hui. Chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors prête pour Pessah ?
Oui, il faut le dire vite, comme on dit. Non, mais j'avance. Bon, entre les
attention,
courses
hein,
et le nettoyage.
C'est J-2, je ne voilà. voudrais pas mettre la pression, mais
et j'ai donc,
mais quand même.
Comme sous tes yeux, déposé mon urne, dans l'urne la vente du Hametz.
Ah,
voilà,
ben,
la procuration pour la vente du Hametz.
Ouais, c'est trop facile de se moquer de tout ça, quand on est fraille, comme disent nos enfants.
Mais oui, voilà, moi je... J'essaie de faire, bon, je ne dirais pas un minimum, ni non plus un maximum, mais entre les deux. Voilà, ben écoute, on va retourner à nos poètes ukrainiens, mais en fait un seul poète, parce que finalement, on n'a pas terminé la dernière fois de présenter Hofstein, David Hofstein, qui est un des grands poètes de l'Ukraine et aussi de l'époque soviétique. Qui est tout à fait caractéristique de cette époque, hein, puisqu'il est né en 1889. Donc, il a commencé par écrire une poésie très lyrique, très, très douce, sur ses souvenirs d'enfance, sur la vie dans un shtetl ukrainien, comme nous en avons lu des extraits la semaine dernière. Et puis ensuite, il a participé à la révolution russe et aux grands espoirs qu'elle a suscité. Donc là, on est dans les années juste après la révolution, 1917. Donc c'est le groupe de Kiev, le Kiever Group, avec la Kulturliga, qui va rassembler des grands noms de la littérature yiddish, donc Bergelson, Der Nister, et puis Markish, et aussi Kvitko, et bien sûr David Hofstein. Et ensuite, il va assister aux grands pogroms d'Ukraine, hein, qui ont lieu pendant au moment où les Ukrainiens essayent de devenir indépendants et où ils sont lourdement réprimés par les Russes, par les Soviétiques, bien sûr, mais c'est là que, entre les deux armées, eh bien, il y a des massacres de Juifs qui sont surtout faits par les armées ukrainiennes, hein, sous la direction de Petliura. Alors, Petliura est devenu célèbre, si on peut dire, parce qu'il a été assassiné quelques années après, en 1926, par un Juif, par Shimon Schwarzbard, qui est un Juif ukrainien qui a la particularité d'avoir participé à la guerre de 14-18 en France et avoir laissé ses mémoires en yiddish. Et donc, après la guerre de 14-18, il est retourné en Ukraine et il s'est battu. Enfin, il a essayé de participer à l'autodéfense des Juifs, mais enfin, qui a été très peu efficace, puisqu'il y a eu, on dit, entre 200 et 300 000 morts, ce qui est quand même énorme. Et ensuite, il est retourné à Paris. Et là, il a rencontré Petliura qui était le chef des armées ukrainiennes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des discussions de savoir si Petliura a participé ou a encouragé ses troupes à commettre ces pogroms meurtriers, ou bien s'il a essayé de les arrêter et qu'il n'a pas réussi à diriger ses troupes. Voilà. En tout cas, Petliura lui-même a dû quitter l'Ukraine. Il s'est lui aussi réfugié à Paris. Et c'est là qu'il a été assassiné par Schwarzbard en 1926. Et il y a eu un grand procès. Et en fait, Schwarzbard a amené des témoignages de tous les survivants et donc des massacres de masse qui avaient eu lieu. Et donc, il a été acquitté. Et il avait un excellent avocat français qui s'appelait Torres, dont j'ai lu, J'ai lu en français sa plaidoirie, qui est très intéressante. Voilà, revenons à Hofstein. Donc Hofstein est lui-même donc, témoin de ces pogroms, mais en 1922, il va publier un livre qui s'appelle « Treuer », qui est illustré par Marc Chagall. Ensuite, il va partir en Palestine et en Allemagne, parce que c'est l'époque aussi où, dans tout l'Empire soviétique, on va décider que le yiddish doit se libérer de l'hébreu, si on veut, doit absolument renoncer au terme hébraïque. Il y a toutes sortes de discussions. Quels sont les termes hébraïques qui sont vraiment rentrés dans le yiddish auxquels on a droit en les écrivant phonétiquement, et quels sont les termes hébraïques qui font partie de la religion, et cela doit être éliminé. Et là, il y a quelqu'un de très puissant qui s'appelle Litvakov, qui va faire régner, on peut dire, la terreur sur la littérature yiddish pendant des années. Donc, Hofstein, qui lui a encore vraiment eu une éducation religieuse et qui est très très, qui connaît très très bien les textes yiddish, les textes hébraïques, pardon, la Torah et bien sûr les commentaires et tout ça, lui supporte assez mal cette répression de l'hébreu. Donc, il va partir en Allemagne, puis il va partir en Palestine en 1923, mais il a laissé ses enfants. Ses deux fils qu'il a eu de sa première femme, donc il s'est marié en 1916, il a eu un fils en 1915, la même année, Chamaï. On a lu les chamailleries entre Chamaï et Hillel. Et Hillel l'année d'après. Et sa femme est morte en 1920. En 1921, il a épousé une deuxième femme, Feige, avec qui il aura une fille. Donc, il est parti en Israël avec sa femme et sa fille est née en Israël. Mais par contre, il a laissé ses deux fils. Donc, en fait, il revient en Union soviétique en 1926. Il retourne à Kiev. Et là, évidemment, il est obligé d'écrire des poèmes très pro-communistes. Et également des petites histoires pour enfants, qui vont d'ailleurs le rendre très célèbre. C'est une époque où la littérature pour enfants est vraiment florissante et où on publie énormément pour enfants dans toutes les langues. Alors nous avons lu, avec mon groupe de yiddish, des poèmes pour enfants de Kadia Molodowski, qui, elle, vit en Pologne, mais qui est de la même époque. Et qui d'ailleurs était elle-même en Ukraine et avait participé à la revue Eigens, mais entre-temps elle est partie en Pologne. Également Hofstein, également Kvitko vont écrire des histoires pour enfants, ce qui est aussi une façon de ne pas être trop persécuté par le régime soviétique. Et en 1939, il adhère même au Parti communiste. Mais ça n'empêche pas qu'après la guerre, des prétextes divers, donc un grand nombre d'écrivains yiddish sont arrêtés, enfermés, torturés, et finalement fusillés le 12 août 1952. Donc voilà, ça c'est vraiment le sort de ces écrivains yiddish soviétiques, dont Hofstein est l'un des représentants. Voilà, alors peut-être avant de continuer, on va écouter ou réécouter la chanson
Une Winterfarnacht
auf russische Felder. Je vais peut-être vous relire la traduction juste de cette partie qui a été traduite par Dobzhinsky, qui d'ailleurs a traduit aussi d'autres poèmes de Hofstein dans son recueil Le miroir d'un peuple, que vraiment je recommande. Voilà, quand l'hiver couvre au soir les terres de Russie, quel vent de solitude immense sur la vie. Un vieux cheval au loin tire à traîneau grinçant, sous la neige un chemin dont je suis le passant. Dans le dernier recoin de ciel illuminé, un bouquet de lueurs tristement s'est fané. Voici qu'un blanc désert s'étend à l'horizon, au loin je vois semer quelques toits de maisons. Là-bas, un hameau d'or enfoui sous la neige, la maison juive où les sentiers vont en cortège. Simple maison, pourtant les fenêtres sont larges. Moi, l'aîné des enfants, je revois mon village. Voilà mon cercle étroit, petit monde tranquille. Une fois par quinzaine, on se rend à la ville et l'on rêve en silence à de plus vastes plaines, pistes, routes là-bas enneigées et lointaines. Les pleurs cachés au fond des cœurs comme des gemmes ou des grains attendant vainement qu'on les sème. Quand l'hiver couvre au soir les terres de Russie, quel vent de solitude immense sur la vie.
C'est déjà le thème dans les choses antérieures de son enfance. Que oui. Il aspire à la grande ville, il aspire à une vie plus mouvementée.
Oui, c'est ça, c'est vraiment le jeune garçon qui est effectivement qui est dans cette solitude. Ouais, et qui, bon, la seule chose qui peut lui amener un peu d'ouverture, c'est les livres. Hein, donc il lit beaucoup et il aspire. Et c'est vrai que c'est une image de grains qui sont pas encore, qui sont encore enfouis sous la neige et qui ne demandent qu'à germer. Mais pour germer, il faut que le printemps arrive et que l'horizon s'ouvre, ce qu'il va avoir, hein, puisqu'après, il va quand même aller dans la grande ville, à Kiev, et avoir quand même une vie
intellectuelle intéressante.
Oui, absolument.
Alors, on a trouvé une interprétation. C'est un chanteur qui en a écrit sur, à partir de ce poème, il a écrit et la musique et le chant lui-même. Et il s'agit de Émile Gorovets, qui est aussi né en Ukraine. Donc c'est beaucoup plus récent, c'est 1923-2001. Il est mort il n'y a que 20 ans, si on peut dire. Donc une très belle voix entre ténor et baryton. Donc sa langue essentielle d'expression, c'est le russe. Également l'ukrainien, mais il a aussi beaucoup chanté en yiddish, et cette chanson est bien sûr en yiddish. Donc il a été très connu, il est né en Ukraine, donc puis il a émigré à New York, il est passé aussi par Israël, et après, en 1989, il retourne à Moscou, où il a encore du succès, il est encore reconnu. Donc l'essentiel de ses productions sont en russe. Il s'est aussi attaché à traduire en russe des airs européens et américains, donc des choses qui avaient été écrites, disons, pour la plupart, j'imagine, en anglais. Il les a traduits en russe et chantés en russe. Mais ici, Inventa Farnart auf russische Felder est donc chanté en yiddish par Émile Gorovets.
In winter farnachten auf russische Felder, wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte? A Ferdlan altings, a skrippen der Schlitten, a Schlacha verschneite, und ich bin inmitten. Von vorn verspreit sich am Mieter am Eisen, und bei dort se seht is a zendiger Heisen. Dort rämmelt a Chuter versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel für Stäschkeller gehen. Versunken in Schnee, zum jüdischen Heise für Stäschkele gehen. A Heise wie alle, nur größer die Fenster, und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Weltl, und klein ist mein Rädl, in zwei Wochen einmal von Chuter in Städtl. Und bänken und schweigen von Felder, von Breiter, der Schneide verweide. Und ertrogen in Herzen verborgene Wehen. Von Säumen, was warten und warten auf Sehen. Herzen verborgene Wehen, von Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Wintervernachten auf russische Felder, wo kämen sein Ernte? Wo kämen sein Ernte? Wo kämen sein Ernte? Wo kämen sein Ernte?
Voilà, c'est magnifiquement chanté.
Très hein. bien chanté, oui. Et puis on entend vraiment chaque mot.
Oui. Hein.
Alors, je vais peut-être faire une petite remarque pour que vous voyez un petit peu la façon dont Dobzhinsky traduit. Hein. Donc, en yiddish, ça veut dire « dans les nuits d'hiver sur les champs russes, comment peut-on être plus solitaire ? Comment peut-on être plus solitaire ?» Et Elender veut dire à la fois solitaire, mais aussi malheureux. Hein, donc c'est vraiment le sentiment de ce jeune homme qui se sent tout à fait perdu. Et Dobzhinsky traduit « Quand l'hiver couvre au soir les terres de Russie, quel vent de solitude immense sur la vie ». Alors, ce n'est pas faux, parce que des fois, il fait des erreurs. Là, il n'y a pas d'erreur, mais vous voyez qu'il traduit peut-être un peu trop lyrique. Mmh. Mais bon, quand même, c'est très joli en français. Hein, voilà. Mmh. Donc, je vais lire d'autres poèmes de Hofstein, bien sûr. Alors, celui-ci a été en fait présenté par Michel Taubert lors d'une soirée consacrée aux poètes juifs ukrainiens qui a eu lieu à la Maison de la Culture Yiddish. Je n'y ai pas assisté, mais j'ai vu l'enregistrement. Donc voilà un poème qui fait partie d'un recueil qui s'appelle « Verworrenschein », c'est-à-dire « Lumière perdue »,« von einem alle meine Welten »,« De tous mes mondes », et qui a été écrit entre les années 29 et 32, 1929-1932, et qui est dédié à Itzik Rarik. Voilà, donc c'est un poème qu'a choisi Michel Taubert, qu'elle a lu en yiddish et que j'ai traduit. « Cher tableau bien connu de ma grande patrie, sur le bleu du ciel, les doux sommets des arbres sur le ciel de l'Ukraine. » Une calme heure de tranquille dans un coin vert, pas loin de la ville de Kiev. Qu'est-ce si un très jeune garçon a un jour étudié le livre de Job ? Qu'est-ce si un poète a un jour trouvé des rimes lointaines ? Et si ces deux noms très éloignés dans l'histoire, il les a rapprochés et mis ensemble ? Autant, une dizaine d'années en un seul jour, en 24 heures de liberté. Ce n'est pas le moment de montrer l'ancien. Montre, fais voir le nouveau. Voilà, alors vous voyez que ce poème est un peu mystérieux, mais il est également mystérieux en yiddish. Donc, alors, il a la particularité d'avoir une rime qui est tout à fait possible qu'en yiddish, hein, et que, évidemment, je n'ai pas reproduit, c'est-à-dire la ville de Kiev... Donc Kiev, d'ailleurs il écrit Kiev, hein, il n'écrit pas Kiev comme on dit maintenant paraît-il en ukrainien, mais lui il a la prononciation russe, voilà, Kiev, et qui va rimer avec Yev, Yev étant la prononciation yiddish de Job, hein, voilà, donc En français, c'est évidemment tout à fait impossible, donc de manière étrange, ou certainement bien sûr volontaire, donc Kiev rime avec Yev, avec Job. Donc ici, c'est en fait le fait de rapprocher deux noms qui sont le nom de Job, qui fait partie évidemment de l'histoire très ancienne, hein, de l'histoire biblique, et puis Kiev, donc voilà, donc le poète va rapprocher Kiev de Job. Est-ce que c'est une allusion au pogrom ? Est-ce que c'est une allusion à la violence de l'histoire ? Ça reste un petit peu mystérieux, hein. On ne sait pas, mais voilà, donc j'ai voulu quand même vous présenter ce poème. Parce qu'il
y a plusieurs reprises qu'il y a cette rime, ou elle ne vient qu'une fois ?
Non, elle vient qu'une fois. Ah, il y a Kiev, et qui, donc il y a la vie de Kiev, et il y a l'enfant qui étudie le livre de Job. Ouais. Et donc, voilà, et donc ensuite, le poète, voilà, donc cet enfant devenu poète, hein, quelques années plus tard, va rassembler ces deux noms. Mais on ne sait pas très bien pourquoi. Et il y a aussi à la fin l'appel au neuf, hein, c'est-à-dire ce n'est pas le moment de montrer l'ancien, donc ce n'est pas le moment de revenir vers le passé, que ce soit le passé très ancien ou le passé moins récent. Hein. Il faut aller vers l'avenir, il faut aller vers le nouveau. Alors, ces poèmes, on ne sait jamais s'ils sont, comment dire, s'ils sont sincères ou s'ils sont aussi inspirés par l'époque, hein, où il faut... là, on est quand même en pleine époque vraiment soviétique, hein, entre 29 et 32, là, c'est... Il faut vraiment surveiller...
Contrôler.
Voilà, oui, très, très contrôlé, la censure est très sévère, et... Voilà, et c'est donc dédié à Itzhak Rari, qui est lui-même aussi un de ces poètes yiddish, qui lui-même également a été assassiné en
1952. C'est tous le même jour que...
Oui, c'est le même jour. Ils ont été
emprisonnés et ils ont été fusillés le même jour.
Ouais. Alors certains avaient disparu déjà avant, hein, comme Kulba, qui lui a été victime de purges déjà dans les années 37-38, avant la guerre. Et après la grande purge, ça a été 48, l'arrestation et puis l'exécution en 52, hein, c'est vraiment... et aussi la répression après sévère de toute la culture yiddish. Hein, c'est vraiment une date tout à fait tragique dans l'histoire de la culture yiddish en Union soviétique. Voilà, ben je vais encore lire un poème. Alors celui-là, je ne sais pas de quand il date. Et là, il parle de la Sibérie, donc il est dédié à... un ami qui s'appelle Temkinen, mon ami mort précocement, assassiné, déporté en Sibérie, noyé dans l'Angara. Sur l'étendue qui nous a séparés, tout est maintenant enseveli. L'apaisement de ma nostalgie est prêt. Sur les lointains silences neigeux, des feuilles verdoyantes sont disséminées, un jeune signe de chemin. Je marche maintenant à corps perdu à travers les neiges, à travers cette mer, dans les pays du gel et de la glace. Là-bas se figent des cavernes, des champs. Là-bas, aujourd'hui, des vents jouent en volute dans les rires, dans les pleurs. Je n'attends personne aujourd'hui. Des vitres gelées me racontent. Les poussières neigeuses se blottissent déjà contre les murs. Et les vents, souvent, m'envoient un souffle à faire, un sifflement à faire dans la cheminée. Je ne leur ai pas demandé. Je suis maintenant un étranger au milieu des champs, sans rire, sans pleurer, sans attendre personne. La froide Angara, fille de la Léna, t'a enveloppée en silence dans les plis de ses vagues et t'a longtemps conduit dans ses longueurs liquides, métalliques. La douleur de moi s'est déjà enfuie et cachée quelque part. Elle s'est enveloppée profondément dans les étoffes de la nostalgie. Mais quand arrive un vent du nord glacé, alors s'ouvrent à nouveau deux yeux attristés, embrumés d'angoisse, et sous les fenêtres, dans les crépuscules silencieux, des cavernes gelées attendent encore, et me tirent vers là-bas où vos souffrances coulent comme des eaux, des hauteurs neigeuses vers les profondeurs glacées. Voilà, donc une évocation quand même du sort des déportés en Sibérie. Oui.
Mais il y a aussi une vision de, du froid et de la Sibérie qui n'est pas toujours négative, en particulier au début. Ça m'a fait penser un petit peu au poème de Katzenelson quand il écrit son enfance, puisqu'il était né en Sibérie. Non, de, pardon, de Soutskever.
Soutskever, oui, Sibir, oui, qui était, oui, c'est vrai.
Au,
c'est
au début,
vrai.
C'est... La neige peut envelopper aussi, mais après, comme il veut décrire le sort de son ami, alors là, ça devient complètement tragique.
Oui, oui, effectivement, il y a l'idée aussi, il y a une vision qui n'est pas toujours négative de ces grands froids, ouais. Tu as raison, et de, ces, de cette Sibérie. Oui, oui, puisque Soutskever a grandi en Sibérie, absolument, ouais. Et il a écrit ce magnifique poème qui s'appelle Sibir, qui est absolument magnifique et très positif. Ouais. La beauté de la nature, la beauté des soleils couchants.
Oui, le froid, le gel, la neige. Pour nous, c'est quand même plutôt associé à, au froid, mais alors que ce n'est pas les mêmes froids que ceux qui pouvaient régner en Sibérie. Mais pour ces auteurs-là qui ont grandi là-dedans, qui ne connaissent finalement rien d'autre, en tout cas dans leur enfance, ce n'est pas obligatoirement négatif.
Voilà, ben on va terminer là-dessus et puis on vous souhaite à Freiler und Pesser.
Kosher, surtout.
Kosher et Freiler.
Et merci et puis, Robin.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Shalom Aleichem.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.